Enfance et Partage est une association nationale créée il y a un peu plus de 40 ans. Son objectif, défendre les enfants et lutter contre les maltraitances physiques, psychologiques ou sexuelles. Enfance et Partage se décline sur le territoire en plusieurs antennes locales, comme ici aux 14 rue du Grand Gonnet à Saint-Étienne, dans lesquelles des bénévoles s'investissent pour sensibiliser, recevoir des signalements et faire remonter leurs informations auprès du conseil départemental ou du procureur. Une association donc qui cherche à mobiliser et à trouver des financements par des manifestations, trouver des parrainages comme le chanteur Chris Evans. Tout ça au service encore une fois des enfants victimes de violences ou témoins de celles-ci. Rencontre sur Radio Ondaine avec Hélène Sauron, trésorière d'Enfance et Partage à Saint-Étienne, la déléguée adjointe Françoise Simon et Monique Gollin, déléguée du Comité Loire, qui débute par faire l'historique d'Enfance et Partage.
Au niveau national, elle aura 44 ans cette année, et au niveau local, 34 ans. Donc son cheminement, c'est des pilotes d'avion et des hôtesses qui ont découvert à l'étranger la maltraitance, donc qui ont décidé de monter une association. Et puis au fil du temps, ils se sont rendus compte qu'ils faisaient pour l'étranger, mais qu'en France aussi, il y avait de la maltraitance. Donc c'est là qu'a été créée l'association Enfance et Partage. Au niveau des antennes, il y en a 18 en France. Et une à l'international. Il n'y en a plus qu'une à l'international. Hein. C'est... qui fait de l'international. C'est le comité de Toulouse qui s'occupe de l'international. Hein. Et voilà, donc en France, oui, on est 18 comités. Donc répartis un petit peu partout. Hein. Enfin, mais là, sur la région, il y a le comité Lyon, Villefranche et Saint-Étienne. Et en France, il y a deux comités, Saint-Étienne et Villefranche, qui avons une personne qui s'occupe des enfants, on appelle ça administrateur ad hoc, qui accompagne les enfants au tribunal quand les parents sont défaillants. Hein.
Ici à Saint-Étienne, 14 rue du Grand Gonnet, ici vous êtes trois représentantes de cette antenne locale. Vous, madame, vous êtes déléguée adjointe, la trésorière. Parole à la déléguée adjointe, comment vient-on à s'occuper administrativement à Enfance et Partage? Pourquoi s'investir?
Pourquoi s'investir? Parce que quand on s'aperçoit, quand on voit... ne serait-ce que les gens qui viennent nous voir, la désespérance qu'il y a de ces enfants qui sont maltraités, qu'on n'entend pas, que tout ça est une omerta là-dessus, quelque chose d'effrayant. Et heureusement, là, depuis quelque temps, on voit apparaître des affaires, malheureusement, qui au niveau national, qui font quand même beaucoup de bruit, l'affaire Maznev, l'affaire Duhamel, etc., qui, je pense, vont aller dans notre sens et nous aider, on l'espère.
Avant de parler un peu des activités au quotidien, continuons un peu à faire le tour de la structure. Des rôles de délégué, également un rôle de trésorier et ici trésorière, un fonctionnement associatif. Comment se constitue cette association-là, ici, localement, à Saint-Étienne, en termes de bureau? Combien de personnes en font partie?
Alors, le bureau, il a été élu avec 4 personnes, plus une qui est responsable du courrier. C'est un gros travail, parce qu'il y a beaucoup de courriers recommandés d'huissiers. Donc, et puis après, les 3 autres, c'est les personnes qu'on a citées, là. On se répartit les tâches, mais on est très polyvalente, en fait. Même s'il n'y a pas de la comptabilité ou des lettres à faire, on fait d'autres tâches de signalement, par exemple, ou de réception des parents et des familles. Donc, c'est pas limité à uniquement une seule tâche. Voilà, il faut l'être d'ailleurs, parce que voilà, on est 15.
Enfin, moi, je l'interromps, la trésorerie, c'est quelque chose de très très important, surtout au niveau des subventions, ça devient de plus en plus difficile, et c'est un travail énorme.
Tout est important. Mais c'est vrai que les choses ne se sont pas simplifiées. Mmh. On a, comme partout d'ailleurs, des lourdeurs administratives, malheureusement. Mmh. Merci, monsieur Macron. Hein, dans tout, c'est pareil. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a des lourdeurs administratives qui sont pénibles. Hein.
Alors parlons maintenant du cœur de l'activité d'Enfance et Partage avec ce sous-titre, hein, « L'enfance est belle mais fragile, protégeons-la ». On a bien compris que c'était la protection des plus jeunes, des enfants. Comment on fait appel à vous finalement? Quand est-ce que vous êtes interpellé?
Alors, on est interpellé, on a des signalements par téléphone, mais on fait de la prévention. Bon, bien sûr, tout est clôturé depuis le mois de mars, hein, mais on fait de la prévention dans les écoles. On a un jeu en route vers mes droits pour le primaire, et puis on fait de la prévention en primaire, collège, lycée et tout. Donc, c'est là qu'on peut être interpellé, on l'a déjà été, hein, dans les écoles. Les enfants nous signalent « mon beau-père, ma belle-mère nous aime pas, je pense à ça, puis c'est passé ». Ou alors, oui, et puis sinon, c'est beaucoup, on a beaucoup les appels, des personnes qui nous appellent et qui viennent nous voir pour nous signaler la maltraitance.
Alors, une fois qu'un cas est signalé, comment vous agissez? Est-ce que c'est l'association ou est-ce que vous êtes un relais en faisant appel à d'autres structures?
On est un relais. Hein. On fait un signalement selon l'importance de la maltraitance. On fait un signalement au Conseil général et si c'est très très grave, on fait un signalement et au Conseil général et au procureur de la République.
Revenons donc avec ces actions de sensibilisation auprès des plus jeunes, dans les écoles, dans les collèges et pourquoi pas les lycées. Qu'est-ce que vous mettez en place finalement dans cette sensibilisation-là? Qu'est-ce que vous présentez en détail? Quelle est finalement l'information que vous donnez pour pourquoi pas amener un déclic?
On leur apprend, et on a des jeux au primaire, là c'est sous forme de jeux de loi, on leur apprend qu'ils ont droit à une famille, qu'ils ont droit à la santé, qu'ils ont droit à l'éducation et tout, et à dire non et à signaler si on leur fait des choses qui sont interdites. On leur explique le cheminement et tout, voilà.
Et c'est à quelle fréquence ces actions de sensibilisation? Est-ce que c'est vous qui démarchez les écoles ou les écoles font appel à vous?
Alors oui, on a une personne qui est responsable justement de la prévention, tant la prévention pour les tout petits, enfin les plus petits par le jeu, que la prévention pour les plus grands par des films. Par exemple au collège ou au lycée, il y a une discussion après derrière un film. Mais c'est Roger Billard, donc notamment, qui s'occupe de ça et qui démarche. Il était professeur lui-même, donc il a déjà des introductions dans le milieu. Et puis qui démarche les écoles et les collèges pour avoir des rendez-vous et des après-midi, parce que ça, c'est par des phases de demi-journée. Hein? Donc il prévoit ses demi-journées. Il y a des périodes qui sont un petit peu à neutraliser, c'est-à-dire le mois de juin, parce que bon, c'est fini. Le mois de décembre, fin décembre, c'est fini. Voilà. Donc il y a des périodes plus précises que d'autres. Voilà, mais ça répond parfaitement. C'est en demande, ils sont en demande, les professeurs.
Oui. En principe, quand on y a été une fois, ils redemandent. Oui. Regarde la Talaudière, oui. Il y a plusieurs endroits et c'est oui. Vrai qu'on y retourne chaque année. Hein.
Et
c'est dommage, l'année dernière, on allait même en Haute-Loire. Hein. Mm-hmm. Il y avait la Haute-Loire et on a fait quand même 11 classes en même pas un mois.
Hein. Oui, on a été sur le compte rendu.
Beaucoup, oui. On a été stoppés. On avait énormément de demandes. On a été stoppés avec le Covid et là, on ne peut pas le faire. Alors.
Et puis avec l'actualité, l'éducation nationale est sensibilisée parce que cette actualité, elle est tellement forte pour le moment que c'est vrai que cette prévention pour les enfants, elle est importante. Hein. Alors on se dit, bon, sur la classe de 25, s'ils ont retenu le message, c'est déjà bien.
Parlons peut-être de chiffres. Combien de cas vous sont rapportés et ensuite, par votre biais, sont remontés auprès soit du département, soit du procureur en moyenne dans une année?
Entre 40 et 50 dossiers, hein, on a traité les signalements et tout.
Alors si l'on lit hein, pour nos auditeurs, parce qu'ils ne le voient pas, soutien aux enfants maltraités, alors 47 dossiers qui se répartissent de cette façon-là, 10 infractions à caractère sexuel, 17 pour violence physique et 20 procédures civiles. Quand on fait remonter une telle information et quand on, finalement c'est une fois par semaine, hein, et si c'est pas plus, comment on se prépare à ça en tant que bénévole, en tant que personne qui donne du temps libre, parce que vous avez du temps libre, ce temps libre là à l'association, comment vous arrivez à faire le tri dans votre tête entre votre activité ici bénévole très importante et votre vie à côté?
Ah ben là, souvent, quelquefois, quand on sort d'ici, il y a eu certains cas qui sont assez difficiles. C'est vrai que c'est pas toujours évident. et qu'heureusement qu'on a une vie de famille à côté qui nous permet de, bah, de décompenser un petit peu. Mais c'est vrai que c'est surtout au tribunal où c'était très, très, très dur aussi. Quelquefois, on assiste, avec notre administrateur ad hoc, on assiste à des procès d'assises. Et là, c'est assez hard, c'est assez des moments qui sont très, très difficiles parfois.
Alors, des moments difficiles, est-ce que vous avez une formation ou tout du moins des accompagnements avant de vous investir dans l'association, c'est-à-dire du fait du national?
Oui, on a 3 jours de formation. C'est pas énorme, hein, mais on a, bon, pour présenter, dire comment fonctionne l'association, on a une formation d'une journée juridique et une formation de journée psychologique. Mais bon, c'est pas suffisant, on n'apprend pas tout. Hein. On apprend, je pense qu'on apprend un petit peu comment tout fonctionne au fil du temps. Hein. De toute façon, quand un bénévole veut rentrer dans notre association, on lui demande d'observer pendant 6 mois. 6 mois pour voir comment on fonctionne, ce qu'on fait, ce qui pourrait lui plaire dans l'association et tout. Hein.
Alors, on parle de violences faites sur les enfants, mais malheureusement, souvent, ça rentre aussi dans un processus, des violences conjugales, des enfants qui sont peut-être victimes eux-mêmes de violences, qui sont témoins de violences, c'est aussi psychologiquement dur. Et on évoquait tout à l'heure le fait du travail en partenariat avec des associations, notamment comme SOS Violence Conjugale 42. Ici, qui sont vos partenaires sur le territoire avec qui vous avez régulièrement l'occasion de travailler ou partager?
On a violence conjugale, on a la sauvegarde, on travaille avec la police aussi. Hein. On avait une psychologue clinicienne du cours Fauriel. On travaille il y a espace aussi, puisque je fais partie du bureau de l'ACID, là, avec Boris Vian, plusieurs associations, il y a 20 associations qui regroupent les enfants. Donc,
aujourd'hui, avec les faits d'actualité que l'on évoquait, on parlait de ces faits d'inceste médiatisés, et puis on parle de ces, de temps à autre, dans les grands médias, de ces faits de violence faites sur les enfants, des témoignages, etc. Quand vous êtes, vous, là-dedans, dans cette association-là, dans cet objectif de protéger les enfants, lorsque vous entendez ça et ces médiatisations, est-ce que ça vous, entre gros guillemets, satisfait du fait qu'on en parle d'une manière massive, ou est-ce que vous aimeriez qu'on en parle plus souvent tout au long de l'année ?
On aimerait qu'on en parle plus souvent, parce que ça fait des années qu'au niveau du gouvernement qui promet l'année pour les enfants, il y a l'année de tout sauf des enfants. Depuis, même en 2014, je me souviens, François Hollande nous avait promis qu'il y aurait la journée de l'enfant, elle n'y est pas, et malgré tout, ça avance, mais pas assez vite à notre goût. Hein.
Alors, Macron en a pris pour son grade, François Hollande maintenant, ce n'est pas une association politique, on est bien d'accord. Mais on est bien d'accord que vous agissez avec le cœur. Aujourd'hui, en local et puis au niveau national, quels sont peut-être les axes sur lesquels vous travaillez en priorité? Est-ce que aussi chacun des comités locaux peut amener des initiatives? Est-ce que ça, c'est possible dans l'association?
Oui, bien sûr. Chaque comité est autonome, financièrement comme dans sa gestion. On a des comptes à rendre à Paris, qui est notre siège, qui réunit les 18 comités. Bien sûr qu'on a notre comptabilité tous les mois à rendre à Paris. Mais chaque comité est autonome. Donc pour faire rentrer des sous, ben, il n'y a pas 56 manières. C'est soit, bien sûr, les demandes de subventions, qui ne sont pas pour le moment en hausse, et puis soit les manifestations qu'on organise. Alors en temps normal, hors Covid, eh ben, on fait des spectacles, on fait des ventes, on fait voilà, plein de choses, des crêpes, voilà, tout ça, qui nous fait rentrer des sous. Là, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est quand même en difficulté. On n'a pas d'entrée d'argent, les subventions sont faibles, et notre loyer continue de courir. Donc, voilà.
On est le seul comité en France qui paye un loyer. Les autres comités sont logés par les mairies, en majorité ou par des associations. Ouais. Et nous, on paye un loyer puisqu'il en découle. Hein, ouais. Et tout. Donc, on a pour ça qu'on va se retrouver avec de grosses difficultés si ça continue comme ça.
Alors, voilà, parce que notre budget, on rame beaucoup pour faire rentrer de l'argent par des dons, des appels à dons et tout ça. Et en fait, on se rend compte qu'on a quand même 4 600 € par an qui partent rien que pour le loyer. Donc, ce n'est pas le but. On veut que ça serve aux enfants. On ne veut pas que ça serve pour du loyer. Donc, sans parler de l'électricité et tout le reste, hein, qui bien sûr est en plus. Donc, c'est un petit peu dommage que les pouvoirs publics locaux, hein, là, ce n'est pas M. Macron, ne nous entendent pas.
J'espère qu'ils vous entendront par cet appel et par cette interview. Revenons quand même à vos activités. Aujourd'hui, qui peut vous contacter finalement, Enfance et Partage, pour signaler des cas de violence? Comment faut-il procéder?
Souvent les grands-parents. On a beaucoup de signalements des grands-parents, mais ça peut être des parents. Ça peut être n'importe qui, un voisin, voilà, n'importe qui peut nous rapporter, les grands-parents, parents et voisins, amis, tout. Et bon, et on vous dit bien dans les écoles, quand on va dans les écoles.
On dit qu'il y en a 2 sur une classe de 25 qui peuvent être touchés par ce problème. Alors, ce n'est pas toujours visible, quand on y est, mais c'est les statistiques qui en dépendent. Ouais.
Et rappelons que lorsqu'on est témoin d'affaires de violence, il n'y a pas de délation et que c'est pour aider des personnes qui sont en danger et qu'il faut bien rappeler ça. Il y a un numéro de téléphone également sur lequel on peut vous joindre, c'est le 04 77 41 77 77. Est-ce qu'il y a des permanences précises ou est-ce qu'on peut vous appeler à n'importe quel moment de la journée?
On peut nous appeler à n'importe quel moment de la journée, mais de toute façon, nous avons des permanences tous les mardis. De 9h30 à 17h.
Si aujourd'hui, il y a un appel à lancer ou un message à faire passer, nous sommes en attente d'une annonce de reconfinement. On en a parlé tout à l'heure, le confinement du mois de mars a été a potentiellement fait beaucoup de victimes dans les enfants. Quel appel vous lanceriez?
On leur dit que le numéro de téléphone, il y a toujours quelqu'un pour répondre toute la journée, de 8h du matin à 18h, même des fois un peu plus tard. Hein. Voilà, donc on est présent par téléphone.
Juste, je voulais dire que les gens qui sont en doute de dire « Oh là là, j'entends pleurer, j'entends des bruits, j'entends tout ça qui se passe en haut », même s'ils ont un doute, il faut qu'ils signalent. Il faut absolument qu'ils appellent, ou nous, ou le 119, qui est le numéro national, mais il faut absolument qu'ils signalent, même dans le doute. Dans le doute, ils ne seront jamais pénalisés de quoi que ce soit, puisque après, les professionnels prendront le relais pour faire leurs enquêtes. Donc, il n'y a pas de faute. Au contraire, c'est un devoir de déclarer un enfant en maltraitance. Et s'ils ne déclarent pas et qu'ils savaient, ils peuvent être au contraire inculpés de ne pas avoir déclaré cet enfant. Hein ? C'est important.